franceinter.fr.
Enfin, c'est quand même ironique, quoi. On me désigne comme la pute du barreau alors que je suis en plein lien sexuel.
Mais vous savez pourquoi ce client a démoli votre bureau ?
Mais oui, parce qu'il pense que j'ai couché avec le juge qui l'a condamné à 10 mois ferme, alors que c'était un autre juge. Donc il se sent doublement trahi.
Est-ce que vous auriez pu coucher avec le juge pour aider votre client ?
Non, bah non, j'avais mal, mais quand même pas au point de coucher avec un juge pour gagner un procès, hein.
Les filles, vous m'entendez ?
Yes, sir, we hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
Una, R, two.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una, R, two.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
2016 n'était pas une année d'élection et pourtant on a tous voté pour elle. D'ailleurs, l'origine latine de son prénom, c'est vainqueur. Victoria est derrière ce prénom, une actrice comme un vent de fraîcheur sur le cinéma français. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Elle se voyait bien trop petite par rapport à ce rêve immense, le cinéma. Mais ça, c'était avant. Avant l'éclosion et ce portrait de femme qui tombe et se relève. Bonjour Virginie Fira.
Bonjour.
On peut dire que vous l'aurez vraiment accompagnée. Ce film Talisman, Victoria, de Justine Triet. Exposée, vous l'avez été, mais sans un seul signe de fatigue et sans que nous en soyons lassés, à travers des entretiens qui révèlent spontanéité, fraîcheur, humilité, humour, n'en jetez plus. En ce 31 décembre, vous êtes notre réveillon. À côté de vous et autour de cette table, deux journalistes étrangers pour regarder l'année dans le rétroviseur. Bonjour Jordan Minzer.
Bonjour.
Du Hollywood Reporter, vos choix et vos coups de cœur, ou de griffes d'ailleurs. Et bienvenue Alex Vicente.
Bonjour.
Correspondant pour El País. Alors, c'était comment 2016 ? Pour vous, c'est ce qu'on verra. Enfin, les sorties de cette dernière semaine de l'année avec trois films sur notre podium. Fait de beaux rêves, Diamond Island et Eddie, un vent de liberté.
Alors, il faut que tu saches aussi que je démarre toujours par le dégueu.
Quoi, comment ça ?
Bah, il y a des avocats qui préfèrent éviter la boulette. Moi, je fonce dedans en premier. Tu vois, j'affronte le dégueu. Et dans ton cas, c'est les six chevaliers, évidemment. On démarra par ça.
Ok. Et comment je m'habille ?
Habille-toi propre, mais pas trop chic. Faut pas qu'il essaie une stratégie.
Non, ça va ?
Oui, oui, ça va. Non, ça va pas du tout, j'ai hyper peur.
Non, dis-toi une chose, c'est que ta force, c'est ta beauté.
C'est une blague ?
Non. Et pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut pas réellement croire qu'un beau mec va les tuer. La deuxième, c'est que statistiquement, les beaux gagnent plus que les laids.
Mmh. C'est pareil pour l'intelligence. Tu vois, les jurés, ils seront toujours plus indulgents avec un type intelligent qu'avec un débile, parce qu'ils s'identifient. Donc t'hésites pas à sortir des mots comme visiblement, ostensiblement, c'est bien ça ?
Manifestement, incontestablement.
Oui, assurément.
Oui, assurément et incontestablement, vous êtes l'actrice de l'année, Virginie Fira. Combien de fois vous l'avez vu, le film, Victoria ?
Est-ce que la première fois qu'on voit un film, on le voit vraiment ? Enfin, quand on y appartient un peu, pas sûr.
Non.
Vraiment pas sûr. Et ben, il est comme en morceaux, quoi. Donc, on voit un montage, on voit des choses. Ce qui était assez rassurant, je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que je l'ai vu.
Vous avez commencé à rire.
Non, parce que je pensais qu'à un moment, j'avais chaque fois envie de le revoir, mais que je trouvais pas ça très élégant. Enfin, ça faisait vraiment l'actrice qui veut toujours aller voir son film. Donc, quand on faisait des avant-premières, j'avais hyper envie de rester dans la salle, mais en fait, je me dis, ça se fait pas du tout. On va dire qu'elle s'adore ou quoi, la fille. Donc, je faisais, non, mais c'est bon, on part. Mais parce que c'est vrai qu'il est venu progressivement. D'abord, parce qu'il faut en parler, il vaut mieux quand même,
Savoir
en dire des choses. Pour ça, c'est bien de le voir. Et que, non, il y a un moment, on commence à entendre la musique du film, mais ça, pour un acteur qui appartient, ça, c'est pas immédiat.
Ouais. Est-ce que vous vous sentez enfin légitime?
En tout cas, je me pose.
Pardon?
Je me pose plus trop cette question, quoi. Enfin, en tout cas, je veux dire que vraiment la légitimité est une chose, qui est entre soi et soi-même, quoi. Voilà. Donc, j'attends pas que quelque part ça l'octroie ou voilà. Donc, à un moment, je pense que cesser de se poser la question ou comme démarrer ses phrases par pardon, est-ce que je peux. Ben voilà, ça indique que peut-être qu'on se la pose plus et que du coup, oui, on l'est. Enfin, et puis surtout. Qu'est-ce qui déciderait du fait qu'on puisse l'être ou pas, quoi.
Et est-ce une question de légitimité en plus ?
C'est-à-dire ?
Est-ce que c'est une question de légitimité ?
Oui, il n'y a pas cette chose-là. Non, c'est ça.
C'est de l'art.
Comment ?
C'est de l'art.
Exactement, oui, oui.
Il y a une scène où vous chantez dans le film, mais qui a été coupée.
Ah oui, comme vous savez ça ?
Ben, je sais pas.
Non, mais bon. Effectivement. Bah, et... Pourtant, je chante extrêmement bien. Qu'est-ce que je dirais là-dessus ?
Eh ben, alors, allons-y, allons-y.
Non, c'est une blague.
Non, vous chantiez quoi dans le film ?
Ah oui, alors, je chantais... une chanson inventée, composée par par Sarah Lanzmann, une chanteuse de jazz qui m'a appris le piano pour le film aussi, parce qu'il y a plusieurs morceaux, voilà, mais je pourrais pas vous la chanter là, mais je pense qu'on va la retrouver dans les bonus DVD. C'est ce que m'a dit Justine, mais je l'ai pas vue cette scène en fait.
Non, tout ça pour vous dire que je sais que vous aimez beaucoup la comédie musicale, ça c'est pas un secret.
Ouais, La La Land, vous avez parlé de ça.
Oui, ouais. On va passer un morceau du film, une chanson, alors chantée par les deux acteurs, Ryan Gosling et Emma Stone. Vous vous sentiriez capable de faire ça ?
J'adorais terriblement. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi. Enfin, je me souviens que dans mon panthéon des films adolescents de comédie musicale, All That Jazz de Bob Fosse était une chose, mais absolument grandiose, quoi. Et puis j'aimais ces figures de femmes et tout ça. Donc oui, moi, c'est quelque chose qui m'a plu terriblement. En France, c'est une question qui se pose parce que depuis Jacques Demy, on n'a pas eu non plus des essais. Peut-être qu'il y a eu quelques petites choses.
Des petits trucs, mais.
Mais quand on dit musique, on dit aussi mouvement. Enfin, voilà, c'est d'où ça partirait. Alors, j'ai entendu que Léos Carax avait un projet de comédie musicale. Ça serait absolument merveilleux, quoi.
Vous aimez Carax ?
Oh, je suis folle de lui.
Et vous voyez bien dans un de ses films, alors. Donc,
oui, enfin, non, mais on se voit pas bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas tout seul à se voir bien dans les choses, quand même. Il faudrait peut-être que les gens se soient.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui, tiens ?
J'aime ressentir brutalement une émotion sans comprendre exactement par où elle passe. Ouais. J'aime qu'on aille dans l'insondable. J'aime que c'est quelqu'un qui n'a pas. Voilà, c'est son romantisme, en fait.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait filmer des corps en mouvement et des corps qui dansent.
Mais voilà, oui.
Hein, parce que le mauvais sang, notamment, et dans Holly Motors, on en trouve.
Ouais,
A Lovely Night, La La Land.
The sun is nearly gone. The lights are turning on, a silver shine that stretches to the sea. We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame those two are, you and me. Some other girl and guy would love this swirling sky, but there's only you and I, and we've got no shot. This could never be, you're not the type for me, and there's not a spark inside. What a waste of a lovely night.
You say there's nothing here. Well, let's make something clear. I think I'll be the one to make that call.
But you'll call.
And though you look so cute in your polyester suit,
it's wool.
You're right, I'd never fall for you at all. And maybe this appeals to someone not in heels, or to any girl who feels there's some chance, the romance. But I'm frankly feeling nothing.
Is that so?
Or it could be less than nothing.
Good to know, so you agree.
That's right. What a waste of a lovely night.
Et voilà, c'était Ryan Gosling.
Quel bonheur.
Mais c'est dingue, des acteurs qui chantent si bien, non? C'est étonnant.
Oui, et puis la musique a l'air vraiment belle.
Ouais. Emma Stone, ça sera une des concurrentes d'Isabelle Huppert, puisqu'elle est pressentie pour être sélectionnée aux Oscars. Elle est déjà sélectionnée au Golden Globe. D'ailleurs, c'est le film que vous avez retenu. C'est votre numéro 1 cette année. C'est vous, Alex Vicente, c'est elle. C'est Paul Verhoeven, dans lequel il y avait Virginie Efira.
Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure d'émotions insondables. Je crois que c'est un film qui reflète parfaitement cette idée. Ouais. Car c'est probablement le film le plus énigmatique, le plus complexe, le plus fascinant de l'année. On en a beaucoup parlé. On en a parlé en tant que satire sociale, en tant que exploration des mécanismes obscurs de désir, tous ces genres de choses. On peut le voir aussi comme le portrait d'une époque marquée par le trouble psychologique, celle qui est la nôtre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Ah ben, on est de plus en plus psychotique, oui.
La société. Je l'ai choisi particulièrement parce que ce film marque pour moi la réhabilitation de Paul Verhoeven, qui est un cinéaste longtemps méprisé un peu partout dans le monde, sauf en France peut-être.
Ils ont enfin compris que c'était un bon metteur en scène.
Il l'était en France aussi. Enfin, je veux dire, Showbiz à l'époque, c'était complètement décrié.
Mais moins qu'aux États-Unis.
C'était une catastrophe, ça a marqué la fin de sa carrière presque. Alors qu'en France, il avait quand même des défenseurs. Comme Jacques Rivette, qui a toujours dit que Showgirls est un chef-d'œuvre, par exemple.
Génial.
Showgirls, qui est ressorti aussi en salle cette année. Donc ça marque la
qui
réhabilitation,
un peu de Mankiewicz à Las Vegas.
Moi, je croyais que tous les grands cinéphiles français avaient réhabilité Verhoeven il y a très peu de temps. Mais Rivette, c'était de tout temps, il était déjà un
soutien. Je crois que c'est tout de suite après la sortie du film en France.
D'accord.
Voilà.
On écoute un extrait de Elle, un extrait de la bande-annonce.
J'ai quelque chose à vous dire.
Violée ?
Dieu.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les flics? T'as pas été les voir?
Bon, on commande.
Je l'ai pris sur le vif, il était accroupi dans les buissons en train d'observer votre maison.
Et vous avez vu son visage?
Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski.
Tu la raccompagnes, hein? Non, c'est pas la peine. C'est joli ton truc là. Tu vas au ski?
Quand tu veux, je t'emmène.
On devrait être encore ensemble. C'est de ta faute.
Tu m'as quitté, Michel.
Tu m'as frappé. C'est pas la première fois qu'il se manifeste. Tu pirates les ordinateurs perso de tous les employés.
C'est grave comme infraction.
Mais il y a un fou qui rôde. Non, mais les fous, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité.
La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi.
Dans Elle, Virginie Efira, vous jouez la voisine de Cato coincée. C'est comment d'être dirigée par un Hollandais en France, joué en anglais?
D'abord, j'avais fait une audition et alors j'ai quand même été un petit peu putassière parce que j'ai parlé tout de suite puisque je suis belge, je parle un peu flamand, exprès qu'une bitch in Nederland. Et du coup, je me suis dit, peut-être ça va m'aider. Donc tout de suite, je dis, on a parlé en flamand, en néerlandais au départ. J'utilise tous les moyens. J'ai amené aussi des pralines. Enfin voilà, 3 bouteilles de vin et j'ai eu. C'est comme ça que je fais en général en audition. Mais voilà, et après, non, il est assez. Alors, ce n'est que mon témoignage, j'ai quand même un petit rôle.
Certes, mais quand même.
Il est très économe de paroles sur le tournage, enfin, ou de réflexions de type psychologique. Mmh. Il me donnait l'impression d'avoir déjà un montage en tête et d'être plus sur des gestes assez précis là-dessus. Une énergie, un sourire, une joie permanente qui sont pour moi le reflet de sa très grande curiosité, qui fait que c'est un homme de 72 ans, mais on dirait qu'il en a 22, quoi. Et vraiment ça. Et une chose que j'ai trouvée très jolie, on m'avait mise à côté de lui à Cannes quand le film a été montré, et les gens applaudissaient avec beaucoup d'enthousiasme et de ferveur. Et il m'a dit dans l'oreille... C'est toujours comme ça chez vous? Je dis non, c'est pas toujours comme ça. Non, vraiment pas. Non. Et c'est quand même, c'est quelque chose. Et c'est vrai. Et il y a ce producteur Saïd Ben Saïd qui a produit le film et qui va travailler avec Walter Hilla, qui a fait les films
et qui fera le prochain Verhoeven sur Jean Moulin.
C'est quand même très chouette que la France puisse être ce territoire-là où effectivement Verhoeven, qui a un talent, voilà, moi j'aurais fait 4 phrases dans son film juste pour le rencontrer en fait, comme on était fan de lui, enfin toujours, mais qui puisse du coup faire ces choses-là. Enfin, c'est une audace folle.
Il y a Isabelle Huppert dans le film, bien sûr, en rôle principal. Et en rôle principal dans un film que vous avez choisi, Jordan, c'est L'avenir de Mia Hansenov, que Virginie aime beaucoup aussi, d'ailleurs.
Ah oui. Oui, c'est assez drôle parce que c'est, C'est pas le même film qu'Ed, c'est très différent, non, mais non. On a quand même un personnage confronté à certains obstacles, presque plus durs que les obstacles qu'elle doit confronter dans elle, parce que c'est à la fois la divorce ou la séparation avec son mari, et puis la mort de sa mère, et tout lui arrive en même temps. Ouais.
Ce sont plus proches, hein. C'est un personnage qui est plus proche de nous que l'héroïne de
Elle. Oui, parce que c'est un film autobiographique, Me Once in Love, c'est inspiré de l'histoire de sa mère. Mais je trouve que c'est beaucoup plus, bien sûr, réaliste que le film de Verhoeven, parce que dans le film de Me Once in Love, c'est en fait, alors que dans le Verhoeven, c'est une femme qui va se battre contre tout, c'est pas forcément ce qu'il fait, il va lui perdre dans le film. C'est plutôt une compréhension qu'avec le temps, les choses vont passer, on va évoluer, on va
elle
changer.
Refait pas sa vie, ça qui est bien, j'aime bien comme notion, elle la continue.
Elle la continue, autrement.
Ouais. Le seul vraiment obstacle, c'est l'histoire du chat. Et d'ailleurs, il y a des chats dans les deux films, c'est assez intéressant la présence des chats dans ces deux films.
Le chat qui est le seul personnage non sexué du film de Paul Verhoeven, quand même. C'est ça. Avec le mien. Donc, c'est
vrai. Mais en tout cas, oui, moi, j'ai suivi le travail de Me Once in Love depuis le début. Je trouve que là, on voit une vraie évolution dans un film aussi beaucoup plus comique, parce que c'est quand même très drôle, l'avenir. Il y a vraiment des scènes qui devraient être tristes, mais qui sont drôles. Par exemple, la scène où elle est dans le bus, et quoi, son mari dans la rue avec sa maîtresse, elle est morte de rire, parce que qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Mais il faut rire, quoi.
Et il y a que Huppert pour jouer ce genre de...
Elle est sublime, vraiment.
Ouais, elle est démente. Sublime, et je disais, une interview d'elle, là, où elle parlait justement des deux films, en disant que c'était la première fois que ce soit sur elle ou l'avenir, qu'elle a l'impression de ne pas du tout jouer, que c'était totalement elle. Et c'est vrai qu'elle devient comme une sorte de point de fuite, comme ça, des films où... Je me dis, peut-être que c'est ça, en fait, arriver à cette chose-là. Mais bon, elle fait des choses absolument spectaculaires. Je l'ai vu sur scène, en plus, dans Phèdre. Et l'avenir, pour moi, un film absolument bouleversant aussi.
Qu'on peut voir et revoir en DVD chez Arte Vidéo, c'est à signaler.
Une autre femme et une actrice assez incroyable, c'est la brésilienne Sonia Braga, Alex, dans Aquarius, dans le film de Kleber Mendoza Filho. Pourquoi ce choix?
D'abord, pour la même raison que...
Je suis pas très fanatique du film.
Alors que moi, je le suis.
Alors, tout d'abord, le film présente un conflit aussi d'une femme face au changement, non? Oui. C'est un peu comme l'avenir aussi, il y a des points en commun avec l'avenir. C'est aussi l'histoire du conflit entre les forces du capital, si l'on veut, et les gens qui n'avaient rien demandé, qui se retrouvent au milieu de courants économiques qui les dépassent.
Vous avez vu le film, Virginie?
Pas du tout.
Alors on va lui raconter l'histoire, quand même.
Je crois, c'est avec Sonia...
Sonia Braga, son grand retour au cinéma brésilien.
Une femme expropriée.
Tout à fait. C'est une ancienne critique musicale. Issue d'une certaine bourgeoisie intellectuelle de Recife, de la ville brésilienne de Recife, qui se trouve confrontée à un achat immobilier de l'appartement qu'elle occupait. Une menace d'expulsion. Et qui résiste, qui décide qu'elle ne veut pas partir, que ça lui appartient, que c'est son territoire, que c'est chez elle. Et ça dépasse évidemment le côté immobilier. Il y a un côté symbolique assez fort, sinon c'est assez chiant.
On lui fait visiter d'autres appartements, trois pièces, parfois avec salle de bain attenante. C'est vraiment passionnant.
Très atypique.
Et on a vu dans le film un portrait du Brésil contemporain, avec tous les faits qu'on a connus cette année aussi.
Tant et si bien que les autorités brésiliennes n'ont pas du tout aimé le film.
Exactement, oui. Il y a une partie du Brésil qui a appelé au boycott de ces films. Mais finalement, c'est un film sur l'acceptation du temps qui passe aussi, du changement, et sur la négociation entre ce qu'on peut négocier et ce qu'on ne peut pas négocier, entre l'individu et la société aussi, entre ce qu'on veut garder pour nous et ce qu'on veut... qu'on accepte de changer parce que ça nous dépasse. Je le trouve assez touchant et marqué par une liberté de forme aussi assez incroyable.
On écoute un peu de portugais, brésilien.
Como é? Mas como é que a senhora está lidando com essa situação?
Tô puta, né?
Boa tarde, como vai?
Como vai, senhor?
Tudo bem?
Meu apartamento não está à venda, eu não vou vender, tá certo?
E qual a proposta deles?
A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote.
Existia? A senhora é muito teimosa, às vezes a senhora parece uma mistura de velhinha com criança.
É que eu sou um velhinho com criança. Tudo junto.
Hoje trago em meu corpo as marcas.
E quais é a música, Virginie Fira? Ah, je croyais que vous en parliez avant.
Ah non, on ne parlait pas de la musique, on parlait du producteur qui est le même
producteur. Zut, c'est Aquarius et elle, c'est le même producteur.
Zahid Ben Zahid.
Bah oui.
Ah d'accord.
Coup double, gagnant.
Enfin, gagnant pas à Cannes, malheureusement.
Non, pas à Cannes, mais artistiquement.
On n'a pas compris.
Mais artistiquement, c'est ça l'important.
On va parler de Gentrification, qui est un peu un sous-traitement d'Aquarius, d'ailleurs,
bien sûr.
Avec vous, Jordan, sur un grand documentariste et un grand film, Jackson Heights, de Wiseman.
In Jackson Heights, qui est oui, désolé.
I'm sorry.
Non, tout est court.
Mais oui, moi, moi j'ai trouvé ce film extraordinaire, surtout parce que j'ai grandi à 10 minutes de Jackson Heights. Et donc, c'est la première fois que je vois un film de Wiseman où je connais très bien le sujet, parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas quand j'ai habité aux États-Unis.
Vous n'avez jamais été au Crazy Horse, Crazy Horse.
Mais c'est ça, non, c'est pas Crazy Horse.
Je crois pas.
Pas dans une asile psychiatrique, ouais. Mais pas encore, quoi. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment un portrait très juste d'un quartier très mélangé. C'est vraiment le quartier le plus mélangé du monde, je crois.
Ouais.
Où il y a 170 langues parlées dans le quartier, il y a une vingtaine de religions pratiquées. Et c'est une intégration d'immigrés qui est plutôt réussie. Il y a des petites frictions, il y a des petits problèmes, mais les gens s'intègrent plutôt pas mal dans cet endroit. Est-ce que Wiseman montre d'une manière, comme il fait toujours, il montre un portrait dans le monde, on rentre dans le monde par plusieurs côtés. Donc il y a le côté, le vieux du quartier, le vieux italien, les irlandais qui sont toujours là. Puis il y a des jeunes, les latinos qui arrivent. Et on voit que parfois ça crée des problèmes. Il y a effectivement cette histoire de gentrification qui existe là-bas, mais qui pendant ce temps est plutôt calme par rapport aux autres parties de New York. Mais moi j'ai trouvé que c'était une vision de l'immigration, de l'intégration réussie, et que c'est très important en 2016 de voir ça.
On écoute un extrait de Jackson Heights.
There you go.
Jackson Heights is the most diverse community in the whole world, literally. We have 167 different languages spoken here.
Lo rico de nuestro trabajo aquí de ser parte de esta miembro de la diversidad, miren la riqueza que existe aquí de los diferentes países, ese convencimiento de que queremos una mejor vida.
Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mi amor con insistencia, pero te empresté.
Pardonnez-moi ce parallélisme, Virginie Efira. Là, on parlait de Jackson Heights. Vous êtes élevé dans un quartier qui est Molenbeek.
Oui, c'est un peu moins bien passé au niveau de...
C'est ça. Non mais jusqu'à une certaine période,
oui.
ça allait. La mixité là-bas.
Alors moi, j'ai vécu à Molenbeek de manière extrêmement paisible, avec une grande mixité sociale, avec du coup une éducation à l'école, je veux dire une mixité très réussie. Et c'est sûr que si je m'étais imaginé qu'elle serait figurée de telle sorte aujourd'hui. Non, mais bien sûr, mais ça. Alors, évidemment, c'était il y a 15 ans, 20 ans, que les choses ont bougé. Mais même là, maintenant, puisque j'y retourne encore, en fait, à Bruxelles, c'est quelque chose d'étendu. Enfin, là, du coup, on l'a figuré comme si c'était partout un ghetto islamiste. Ouais. C'est quand même un petit peu plus large que ça. Après, il y a eu tous ces débats après pour lesquels, moi qui est simplement une habitante, qui est difficile pour moi de me prononcer. C'est-à-dire qu'après, on a dit, tiens, oui, mais en Belgique, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de laxisme? C'est vrai que c'est en arrivant en France que moi, je me suis aperçue plus fort des difficultés d'intégration en Belgique. Il y avait moins ça. Déjà, chez nous, il n'y a pas la banlieue qui est mise en dehors de la ville. Il y a un mélange beaucoup plus présent. Enfin, moi, j'ai senti très fort en arrivant en France quelque chose par rapport à ça. Mais peut-être aussi qu'il y avait, pour préserver une forme de paix sociale, quelque chose où on allait moins fouiller. fouillé aussi à certains endroits et que sur certaines, un milieu associatif, on a moins regardé et partout. Enfin, quand on voit le pouvoir qu'a eu l'Arabie Saoudite, enfin, je ne vais pas rentrer dans des grands trucs politiques, mais je veux dire que chez nous aussi, enfin, voilà, que c'est arrivé, qu'on n'a peut-être pas, comme partout en fait ailleurs, pas spécialement en Belgique, on n'a pas mesuré ce que plein de circonstances ont fait naître. Bien sûr.
On signale juste que le Wise Man est visible, l'intégralité de ses films désormais, en DVD chez Blackout. Il y a 3 volumes, le dernier vient de paraître et c'est évidemment des pures merveilles. Ce sont des pures merveilles.
S'il y avait bien une réplique qui symboliserait l'année, en tout cas pour moi ce serait celle-là, c'est Your Position, Your Position. Cet appel au secours des navires et des migrants. On écoute ce petit extrait de Foco Amari.
Please, fast, your position, please, your position.
33, 51.
Yes. And then under.
Okay, AC 52.
How many people on board?
I think it's about 150 people.
100? What kind of boat? What?
It's between 130 to 160.
Okay.
And we have most of them is women and kids. Please, can you help us very quickly? Yeah, we are thinking. We are staying here in the same coordination. We will not move.
Madam, please, calm down. Because we will send rescue. But you need to calm down. Okay, so save your battery. I will call you back. Okay?
Foucault-Marais de Jean-Franco Rosy, ours d'or à Berlin, remis par la présidente du jury, qui est une grande actrice américaine, qui est Meryl Streep Jordan. Il est resté longtemps, Rosy, sur l'île de Lampedusa, et au lieu de filmer les migrants comme les reporters peuvent le faire, lui, il a filmé certains membres de la population.
Oui, justement, on a le point de vue surtout d'un jeune garçon en train de grandir. C'est vraiment comme un film sur le début de l'adolescence, mais entouré de cette histoire d'immigration terrible, ou des bateaux qui arrivent avec beaucoup de cadavres dedans. Justement, par rapport au film de Wise Man, c'est intéressant parce que dans Wise Man, on a les immigrés, mais 10-20 ans après, qui racontent, à un moment donné dans le film de Wise Man, l'histoire de leur arrivée aux États-Unis, quand ils ont traversé le désert entre le Mexique et les États-Unis. Et là, dans le film de Rossi, on a effectivement... on voit cette arrivée, on voit ce qui se passe, on voit des gens qui meurent et qui souffrent pour arriver...
Mais en revanche, Jordan, les habitants ne voient jamais les migrants puisqu'ils sont envoyés directement à un centre, ils ne se croisent jamais.
Exactement, on a en fait un montage parallèle dans le film entre deux mondes, on peut dire le monde de la vieille Europe en train de... pas de mourir, mais on voit que, par exemple, l'industrie de la pêche marche plus du tout, que les gens sont au chômage. Et on a tous ces gens qui sont jeunes, qui arrivent, des immigrés, qui veulent justement, d'une certaine manière, recréer l'Europe. Mais effectivement, ces deux mondes ne se voient pas, sauf quand on voit le médecin ou les travailleurs sociaux ou le marin qui sont là pour sauver les gens. Effectivement, on a cette scène. En fait, pour moi, le film, j'étais surtout impressionné par le cadre du film, par la mise en scène. Il y a des plans magnifiques, ces plans de l'hélicoptère qui on voit la porte qui arrive, l'hélicoptère qui va flotter dans la mer au milieu de la nuit. Donc,
on les voit dans le plastique aussi, les migrants sous l'eau aussi, ces visions incroyables sous-marines.
Donc je ne dirais pas que c'est un film esthétisant, mais c'est un film très esthétique.
Vous ne l'avez pas vu, Virginie ?
Non, non plus.
Est-ce que vous allez voir des docs au cinéma ?
Ça a dû m'arriver pas récemment, parce que j'en regarde énormément. Oui, chez moi, énormément. Ben oui, ben ça c'est quand même. On peut contester beaucoup la télévision et valoriser en revanche Radio France, bien sûr. Mais il y a quand même ça. Il y a quand même. Non, mais c'est vrai.
Donc, vous avez tout à fait raison.
Non, mais donc tu vas sur France 5, Arte, France 3, t'as des documentaires merveilleux tout le temps.
C'est vrai. Oui.
Et la femme créa Hollywood, Alex, c'est un doc, c'est un livre.
C'est un doc, c'est le doc des sœurs Kupperberg qui accompagne le livre dont je voulais parler, La Cité des Femmes, d'Antoine Cyr.
C'est un cadeau que nous allons faire à Virginie.
Ah, quelle chance, parce que ça va vous plaire,
merci,
à mon avis.
Merci, c'est trop chouette.
Donc, c'est dans un contexte, dans les contextes actuels, on parle beaucoup de féminisme, comme vous savez, parfois d'une façon un peu légère, un peu superficielle. Et l'auteur, ce qu'il fait, c'est de retracer toute l'histoire de la place des femmes à Hollywood entre les années 20 et les années 50, c'est-à-dire entre la généralisation du parlant et l'apogée des grands studios. Et il se rend compte qu'il s'agit d'un temps dominé par les femmes. Même si les hommes dirigeaient les studios et produisaient les films, il se rend compte que c'est les femmes qui ont marqué cette période-là et que ces actrices-là, Catherine Hepburn, Bette Davis, Joan Crawford, n'étaient pas des pièces interchangeables, mais que chacune avait une identité et même une éthique. C'est sa thèse et je trouve ça vraiment passionnant.
Ah, chouette.
C'est une espèce d'encyclopédie avec des petits essais sur toutes ces actrices.
Ouais.
Et voilà, et on peut parler aussi de documentaire que vous citiez et la femme créée à Hollywood des sœurs Julie et Clara Kuperberg.
Ce sont les premières réalisatrices.
Exactement, qui partent des pionniers d'Hollywood, qui ont tourné les premiers films parlants, par exemple, et qui sont complètement oubliés aujourd'hui. Alice Guy, Laurie Weber, Francis Marion, Dorothy Arzner, qui a fait l'objet d'un
cycle. Pourquoi vous riez à cause d'Alice Guy?
Non, parce que c'est Alice Guy. Hein. Arrêtez d'annexer en permanence à l'Empire américain. C'est Alice Guy, elle est française.
Alice Guy, alors, je m'excuse. Et Dorothy Arzner, qui a fait l'objet d'un cycle au festival.
Merveilleux
Lumière
cycle où on a vu des petits bijoux cinématographiques.
Je trouve ça une démarche très, très intéressante parce qu'on a beaucoup fait ces travaux dans la littérature, dans les théâtres, non, d'aller chercher des grands personnages féminins, je sais pas, Lady Macbeth, ces genres de personnages, et de voir qu'est-ce qu'elles avaient des féministes. Et on l'a un peu moins fait au cinéma, c'est donc je trouve ça pas mal de faire ce genre de travail.
Cette somme est éditée aux éditions Actes Sud.
Oui. Il y a une autre femme, une jeune metteur en scène qu'on a découvert, bon, qui avait déjà tourné, mais en l'allemande, Tony Erdmann, qui signe Tony Erdmann,
oui.
Marraine à deux, et vous aimez beaucoup ce film?
Ah oui, je l'adore ce film. Je l'adore ce film qui arrive à parler de cette chose folle qui est l'espèce de honte qu'on peut ressentir face à un parent, cette espèce de chose où, voilà, c'est cette fille qui attend... C'est la première fois qu'elle voit son père, elle l'attend, alors on s'imagine comment on va être, on est un peu emmerdé par sa présence, mais on focalise déjà, puis au moment où il est là, on ne peut pas serrer dans les bras, il y a comme un mur, comme un espace qu'on ne peut pas combler, et puis il part déjà, la première fois qu'il se voit avant qu'il y ait tout le truc, et il part déjà et on n'a rien pu faire, c'est comme si on ne pouvait jamais être totalement dans le présent, c'est quelque chose qu'on imagine et quelque chose qu'on va rater forcément, comme quand on est parent, on dit qu'on va forcément rater quelque chose, en tant qu'enfant, on va aussi rater quelque chose, et puis après, c'est quand même l'état dans lequel je me suis sentie quand elle chante Whitney Houston, c'est-à-dire vraiment riant parmi les larmes comme ça, c'est pas tous les jours cette chose-là. Il y a une chose très belle aussi qui est ce glissement dans cette séquence où ils finissent tous à poil et tout ça. On se dit qu'elle aurait pu ne pas se produire, c'est parce qu'elle essaye d'enlever sa robe, qu'il y a le truc qui ne vient pas, que quelque chose d'un coup se passe. Il y a beaucoup beaucoup d'inventivité. Alors il y a des gens qui sont très énervés sur le film et qui me disent comment as-tu pu aimer ça, c'est un père qui instrumentalise sa fille. Mais vraiment il y a ça aussi. Mais pourquoi pas, hein, enfin, on peut voir ça, on peut voir l'instrumentalisation, on peut voir se dire de dégager du monde libéral et mettre la fantaisie et tout ça. Il y a plein de manières de voir les choses, mais enfin, c'est quand même un film avec une grande, plus qu'une grande maîtrise, enfin, qui arrive à toucher un endroit rare, quoi.
Merci pour ces mots. Non, mais vraiment. Et on va terminer avec American Nightmare 3 Elections. C'est un film sur Trump, ça, Jordan?
Exactement, c'est un documentaire qui a été tourné le 8 novembre, jour où l'Amérique a basculé dans le cauchemar. Non, c'est un film, en fait, c'est un film assez marrant. Vous avez vu les autres films, mais parce que c'est le troisième,
oui,
d'accord.
Oui, j'ai bien
En anglais,
bien
le film s'appelle The Purge, comme purger quelque chose. Et en fait, c'est l'histoire de... Ça se passe dans l'avenir, et un jour par an, le crime est légal aux États-Unis et c'est pour que tout le méchant se tue et qu'on se débarrasse un peu de voyous et tout
ça. C'est un film.
C'est un film.
Ah, oui, c'est pour ça que c'est d'anticipation parce que c'est 365 jours par le reste du temps.
Exactement. Donc voilà. Et donc le troisième, ils étaient très malins, le cinéaste. Ils savaient que les élections allaient arriver en novembre. Donc le film est sorti pendant l'été. Et donc le film parle justement d'une élection future où il y a un personnage un peu trumpienne, on peut dire, qui veut assassiner le candidat féminin qui est un peu Hillary. Et bon, on n'est pas arrivé jusque-là dans la réalité, mais on n'était pas très loin.
Bon, ça s'appelle American Nightmare 3.
Elections.
On se retrouve, vous restez avec nous, hein, tout le monde, avec Spoiler, et on parle des films, Laurent.
Volontiers.
Des fêtes surprises dans l'intrigue de la nuit, ouais c'est toi que je vis. Spoiler, espèce, on voit l'apparition aux petites heures. Pour les repris de justesse, épuisé d'excès pour les noceurs. Nuisance sonore, depuis qu'on part sur un dance floor. Spoiler,
t'es qu'à la verse aussi, t'es comme un peu le monde.
passe droit pour ne rien dire. Blasé, blasé, qu'est-ce qui est pire? Renoncer ou bien consentir? Je sais que tout s'estompe quand les masques tombent. Knack knack, en bout de piste. Cette nuit s'achève sur un triste spoiler.
Ne viens pas gâcher mon plaisir. Tika motongi si na zane kobinao. Na tiki basu si na ndako. Zela tongo ete na pongo to sololao.
Danse comme on joue les coups. Les briquets font parler la poudre. Dans ce club, tel un thermos. On fait partie des meubles à force. J'ai vu marcher du réel. Compter 36 chandelles. Tranquillisant dans le gobelet. Trouver des illusions au rabais. Spoiler.
Tika la souci.
Les sorties de cette dernière semaine de l'année, Laurent, va commencer par un grand film, celui de Marco Bellocchio.
Oui.
Fait de beaux rêves, Turin 1969, Massimo, un jeune garçon de 9 ans, perd sa mère. Quelques jours plus tard, son père le conduit auprès d'un prêtre qui lui explique qu'elle est désormais au paradis. Année 90, Massimo est devenu journaliste, mais son passé le hante. La mère, c'est un peu la matrice du cinéma de Bellocchio. Après la nourrice, cette mère qui n'acceptait pas d'en être une. Cette maman-là, adorée par le fils et qui devra faire son deuil en passant des obstacles, des épreuves. Parmi l'une d'elles, il y a ce magnifique épisode avec Emmanuel Devos.
Grand film, grand réalisateur, un tonton fringant du cinéma italien. On l'a découvert à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs cette année. On était bien contents d'être là dans la salle. Effectivement aussi avec Emmanuel Devos, qui est, vous le disiez, en majesté dans une scène extraordinaire en mer abusive. C'est un second rôle. Le reste du film est porté par le fantôme de Bérénice Bejo, un peu, hein, qui joue effectivement la mère. La phrase du titre, elle est très belle. Fait de beau rêve, c'est une phrase a priori qu'on dirait plutôt optimiste. Et ce qui est très intéressant, c'est que le film montre que quand la maman dit fait de beau rêve à son fils, elle le recouvre d'un drap. Tiens, elle le recouvre d'un linceul, évidemment. C'est ça que veut montrer Bellocchio aussi. Et tout le film va être la déconstruction de cette belle phrase qui voudrait dire des choses peut-être plus profondes ou plus difficiles et douloureuses que cela. C'est la façon dont ce garçon, ce jeune homme, va progressivement enlever le linceul et exister par lui-même avec un adieu à la mère qui est absolument bouleversant et qui fait de ce film un très très grand film. Je rappelle, ça s'appelle « Fée de beaux rêves » et c'est signé Marco Bellocchio.
Alex Vicente, quelques petites réserves.
Vous l'avez vu sur mon visage. J'aime bien le film et je suis moins enthousiaste que vous. Je trouve que le film a une structure un peu trop psychanalytique, une dramaturgie très psychanalytique qui plombe un peu le résultat. Ce que j'aime dans le film, c'est plutôt toute l'analyse de l'identité italienne, du clair-obscur de l'identité italienne, les parts d'ombre non avouées, la relation entre l'individu et le pays, et la culture et la tradition. Tout ça, c'est ce que Bellocchio sait très bien faire.
Mais vous en parlez très bien.
Oui, c'est vrai.
Vous en parlez très très bien. On a très envie de voir le film. Merci. On va passer au bon suivant.
Dans l'histoire avec la mère.
Le temps nous manque, hélas.
Pas du tout de censure dans cette émission.
Pas du tout.
Désolé.
Merci Virginie. Allô. L'ami François d'Assise et ses frères, c'est un deuxième et autre film de Renaud Feli et Arnaud Louvel. Vous serez moins enthousiaste, Laurent.
Oui. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire la petite notule faite par notre confrère Thomas Borès dans Studio Ciné Live ce mois-ci. Au 13e siècle, François d'Assise prône une vie simple tournée vers les plus démunis. L'Église se méfie. Ses frères le suivent, mais pas tous. Nous, On attend encore que tout le monde se mette d'accord. Fin de citation. C'est extraordinairement ça. Et franchement, il faut être un tout petit peu gonflé. Mais après tout, pourquoi pas? Il y a que les grands esprits qui n'osent rien. Pour se mettre dans les pas, tout simplement, de Roberto Rossellini, qui en 1950 donnait 11 Fioretti de François d'Assise, c'est exactement la même histoire, c'est exactement le même regard intéressant, a priori, sur François d'Assise, mais hélas, n'a pas le talent de Roberto Rossellini qui veut, et ce film n'apporte strictement rien.
Ok. Diamond Island, ah, ça c'est un,
ah,
c'est la plus belle surprise, oui, de la semaine, cambodgien de David Chou. Diamond Island, c'est une île sur les rives de Phnom Penh transformée par des promoteurs immobiliers pour en faire le symbole du Cambodge du futur, un paradis ultra moderne pour les riches, et débarque là-bas Bora, un jeune garçon de 18 ans qui vient de la campagne. Voilà, un jeune campagnard découvre la ville. Derrière ce sujet standard, il y a un merveilleux film, un film éblouissant de couleurs, de sensations sur la jeunesse, Laurent.
Magnifique. On doit à David Chou un documentaire, justement, peut-être l'avez-vous vu, qui s'appelait Le Sommeil d'or, sur la disparition du cinéma cambodgien avant l'arrivée des Khmer Rouges. Je ne connais plus rien de ce cinéma, ils l'ont détruit. C'est quand même assez rare dans l'histoire du cinéma mondial. Mmh. Et il y a toute la mélancolie que porte en soi le cinéma, qui forcément parle de fantômes. Il y a toute cette mélancolie dans le film de David Chou, dans le nouveau film, dans ce film-là pour le coup de fiction, qui n'est pas un documentaire. C'est avec un sens, par exemple, des ellipses. Il n'impose rien, il nous montre des choses extrêmement délicates, filmées avec une caméra merveilleuse dans les rues, dans des ambiances nocturnes extraordinaires. Il y a une scène un peu à la Nanni Moretti sur les scooters qui marche formidablement bien. Enfin, c'est un vrai enchantement, ce film, franchement.
Vous l'avez vu tous les deux?
Moi, j'ai vu, justement, je pense que j'ai vraiment préféré le documentaire parce que ça, c'était vraiment beaucoup. Il n'y avait pas d'image. Donc, il fallait faire un film sans image. Et donc, dans ces films-là, j'ai trouvé ça.
C'est lui qui a fait l'image manquante ou je n'importe quoi.
Ah non, Ridipan.
J'ai trouvé ce film un peu plus conventionnel, mais effectivement, il y a des moments de beauté. Ça m'a fait beaucoup penser au premier film de Tsai Ming-liang, Rebels of the Neon Gods, Rebels de Dieu de Néon. Il y a justement des scènes de scooter où on traverse la ville la nuit. Et il y a des moments où, oui, effectivement, très beau.
Moi, ça m'a fait penser à Spring Breakers, bizarrement. De Harmony Korine, vous voyez, dans les couleurs et tout, la jeunesse.
Oui, sans la drogue, Laura.
Oui,
mais ouais.
Sans la drogue.
Magnifique.
Eddie, un vent de liberté, Laurent, de Mohamed Ben. C'est l'histoire d'un garçon, un jeune Marocain, un Tunisien, pardon, qui va tenter d'aller contre la volonté de sa famille, des traditions, et surtout d'une mère, pour le coup, omniprésente.
Ultra abusive.
Ouais. Et il fait la rencontre. Enfin, donc il va devoir se marier.
Ouais. Un mariage arrangé.
Et il rencontre une jeune fille. C'est très joli. Ouais. C'est le rapport entre les deux. Magnifique. Elle, ce qu'elle dégage. Ah, oui, c'est vraiment très, très joli. Ouais, mais allez-y.
Non, pas du tout. Je préfère vous écouter. Pourquoi pas? Non, c'est une histoire très simple. Ça pourrait être même simpliste. C'est-à-dire l'éveil au monde d'un jeune garçon, quoi. La façon dont il va essayer de se dégager de toutes ces pelures d'oignons qui lui plombent la vie. Et il va y parvenir, faut le dire. Mais c'est tout ça est dans une grâce, qui évite là aussi les clichés. Sur le frère, tout ça, il y a des choses qui auraient pu être très casse-gueule. C'est pas le cas, c'est pour un premier film. Vraiment, pour moi, une petite merveille. Il s'appelle Eddie, je le rappelle.
Ça demande juste un peu de patience comme film, parce que la mise en place est très lente. Ouais.
C'est pas faux. Ouais.
Mais ça finit par aboutir à une émotion incroyable. Ouais. Et le personnage de la fille,
c'est sublime.
On est récompensé de cette attente, absolument. Ouais. Eddie.
Et on va terminer par une animation japonaise que vous avez beaucoup aimée. Je sais pas ce qui se passe, Laurent, là, c'est la dernière semaine de l'année, mais vous êtes vachement optimiste.
Ah bon, vous trouvez?
Ça s'appelle Your Name de Makoto Shinkai. Alors, l'histoire est vraiment délicieuse. Une adolescente coincée dans une famille traditionnelle rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo à travers ses rêves. Elle se voit littéralement propulsée dans la vie d'un jeune garçon au point qu'elle croit vivre la réalité. Tout bascule lorsqu'elle réalise que ce jeune garçon rêve également d'une vie dans les montagnes, entouré d'une famille traditionnelle.
Et oui, c'est un petit conte qui a juste rassemblé 10 millions de spectateurs au Japon. C'est pas du Miyazaki, mais ça pourrait être. C'est-à-dire, c'est aussi beau, c'est même parfois.
Il y en a quelques-uns qui font presque aussi bien que lui.
Mais bien sûr,
celui qui avait fait Le Garçon et la Bête, Les Enfants Loups, c'est presque du Miyazaki.
Vous avez tout à fait raison.
Pompoko, c'est un autre, j'oublie son nom.
Mais il y a une vraie école, il y a un vrai univers. Et là, ce gars des villes et cette fille des champs, et on a à peine effleuré le scénario parce qu'il se passe quelque chose. On a n'en parlera pas, mais qui devient beaucoup plus tragique que ce qu'on a déjà raconté. C'est une pure merveille. Il y a des moments d'une grâce et d'une beauté, mais sidérante. Il faut vraiment aller voir toute affaire cessante de ce film. En plus, on peut le voir en famille. Ça s'appelle Your Name.
On va terminer par un cadeau pour Virginie.
Eh oui. Pour vous, ce sera Dédé comme Danielle Darrieux, merveilleuse actrice française dans Marie-Octobre de Julien Duvier, avec un casting masculin extraordinaire, Blier et Gianni Paul Meurice. C'est une affaire de résistance, c'est un réseau résistant qui se réunit après-guerre, et il y a parmi eux un traître qui, ça, on vous le saurez en regardant ce film et ce DVD formidable qui est chez Pathé. Il y a à la fois le DVD et le Blu-ray dans un même coffret.
Merci à tous, merci Alex Vicente, merci Jordan Minzer. Virginie Fira, on vous revoit bientôt quand, dans quel film, avec qui
Ah oui, oui.
Ah oui, la promo, oui, c'est vrai.
Non, mais pas trop. Alors, le film que j'ai tourné après Victoria, c'est un film d'Emmanuel Cuho qui a fait, elle avait fait Circuit Carole.
Oui,
très bien,
absolument.
Merci.
Vous
êtes calé. Et c'est un film qui s'appelle Prix de cours, qui est l'histoire d'une mère et de ses deux enfants. Une mère qui est confrontée à un événement, je ne suis plus du tout rodée en promo là. Plus du tout.
Et vous jouez l'un des deux enfants.
Exactement, c'est là que c'est vraiment une chose folle.
Merci. Merci beaucoup, on dit pas bonne année parce qu'on est le 31 décembre. Merci.
Toutes les références de l'émission, et Dieu sait si on a parlé de beaucoup de choses, sur franceinter.fr et le podcast de l'émission, bien évidemment.
Générique avec vous, Virginie Fira, je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantes a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Martine Messonnier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Hélène Bizio. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Virginie Fira, j'étais.